Il y a deux semaines, le journal Le Monde posait cette question à la une de son cahier Sciences et Médecine. L'être humain a-t-il atteint ses limites suite à la publication d'un article de la revue Nature affirmant que la longévité ne dépasserait 115 ans que dans des cas exceptionnels. Actuellement, de nombreuses données suggèrent que des limites sont en train d'être atteintes dans de nombreux domaines comme la longévité, les performances physiques ou intellectuelles. Nous y consacrons cet après-midi notre tête au carré avec mes invités. Toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les soucis du GPS européen Galileo.
Oui, le dispositif de géolocalisation n'en a pas fini, des galères. Cette fois, ce sont les horloges atomiques qui tombent en panne, une des pièces maîtresses du dispositif. 9 sont concernées pour l'instant. On en parle avec un des concepteurs de ces horloges, le physicien Gaetano Miletti.
Et puis comme chaque jeudi, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui s'est intéressé aujourd'hui à l'indépendance professionnelle des écoles de médecine. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Pierre de Certaines.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'être humain a donc-t-il atteint ses limites? Question posée dans le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités en studio. D'abord à Paris, le professeur de physiologie Jean-François Toussaint et le professeur de psychologie Olivier Houdet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et puis en duplex des studios de France Bleu Héros à Montpellier, le démographe Jean-Marie Robine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean-François Toussaint, est-ce que physiologiquement l'homme ne peut pas dépasser certaines limites aujourd'hui?
Disons que les capacités qu'il peut atteindre et celles qu'il repousse sont essentiellement déterminées par l'interaction qu'il a avec les grands paramètres de son environnement. La gravité ne lui permet pas de sauter au-delà de 6 mètres par la seule force de ses jambes.
Ouais. Jean-Marie Robine, est-ce que Jeanne Calment va rester une exception dans l'histoire humaine selon vous?
Personnellement, je ne pense pas, mais je pense surtout que c'est impossible de se prononcer sur cette question aujourd'hui. Voilà.
Ah bah, j'espère qu'on va pouvoir quand même apporter des éléments de réponse parce que vous êtes tous là pour ça. Olivier Houdet, est-ce que l'intelligence humaine est en train de connaître, elle, une baisse de régime?
Non, je ne le crois pas. En fait, les tests de QI ne sont plus adaptés à l'intelligence d'aujourd'hui. Et les sciences cognitives et du cerveau nous donnent des nouveaux outils pour explorer, disons, l'intelligence contemporaine.
Et on va donc en discuter tout à l'heure ensemble avec un sujet plutôt controversé, d'ailleurs, au sein même de la communauté scientifique. Et pour discuter de ces limites de l'être humain, vos questions sur franceinter.fr. Et les pannes de Galileo qui sont à la une de la science aujourd'hui, après un déploiement plusieurs fois retardé, le système de géolocalisation européen Galileo était donc enfin opérationnel depuis le mois de novembre. 2 mois plus tard, voici les premières pannes qui pointent le bout de leur nez. 9 horloges atomiques sur les 72 éléments clés du système sont défaillantes, selon l'Agence spatiale européenne. Et pour mieux comprendre l'importance de ces horloges, nous sommes en ligne avec le physicien suisse Gaetano Miletti. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes professeur à l'Université de Neuchâtel et vous avez participé à l'élaboration des horloges atomiques qui sont aujourd'hui dans l'espace. Avec nous en studio, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Gaetano Miletti, pour qu'on comprenne bien d'abord l'embarras de l'Agence spatiale européenne, expliquez-nous, pour commencer, le rôle de ces horloges atomiques dans le système de géolocalisation Galileo.
Alors, pour le système de géolocalisation, il s'agit de mesurer précisément le temps que met une onde pour passer du satellite jusqu'à l'utilisateur, et puis toute erreur dans cette mesure de temps se traduit directement par une erreur de positionnement. Et pour garantir un positionnement au mètre près, il faut que l'erreur sur la mesure du temps soit inférieure à la nanoseconde. Et pour cela, donc, seules les horloges atomiques sont capables de garantir une telle précision, puisqu'une horloge à quartz seule ne permettrait pas d'avoir une telle précision.
Alors, si on peut le résumer simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une horloge atomique aussi précise?
Alors, dans une horloge atomique, la base de temps est fournie par un quartz, comme pour toutes les autres horloges, sauf que ce quartz est référencé à un atome. Il y a plusieurs types d'horloges atomiques. Il y a les horloges atomiques au rubidium, ça veut dire que c'est l'atome de rubidium qui va réguler le quartz, les horloges à l'hydrogène, ben ce sera un atome d'hydrogène, etc. Donc c'est un quartz qui est stabilisé grâce aux atomes.
Est-ce que la précision de la géolocalisation peut être affectée par les pannes qui ont été décrites par l'ESA hier, tout simplement?
Alors, faut savoir qu'il y a 4 horloges sur chacun des satellites, justement parce que les pannes éventuelles étaient anticipées. Donc tant qu'il y a une horloge qui fonctionne, le système n'est pas remis en cause.
Il faut s'inquiéter, Philippe, quand même, de ces 9 horloges en panne sur 72 ?
Ce qui apparaît un peu étonnant, c'est que le système n'est pas très vieux. Les premiers satellites de test avaient été lancés en 2005, donc les suivants sont ultérieurs, et que ça fait déjà quand même un certain nombre de pannes. Donc il y a sans doute quelque chose à essayer de retester ou à revoir dans la conception, puisqu'il manque encore des satellites à lancer. Il y en a 18 en orbite actuellement. On devrait atteindre en 2020 24 satellites, à raison de 4 horloges par satellite. Ce qui est inquiétant, c'est un peu cette obsolescence qui a l'air un peu rapide,
on va dire. Et pas programmé pour le coup.
Non.
Gaetano Miletti, l'ESA n'a pas encore communiqué les raisons précises des pannes, mais est-ce que le fait que les pannes concernent les deux types d'horloges, parce qu'il y a deux types d'horloges, vous l'avez dit, vous permet de faire un premier diagnostic pour nous ?
Bon, ça serait de la pure spéculation, hein, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans chacune de ces horloges, il y a une partie qu'on va dire physique, là où se trouvent les atomes, dans un cas rubidium, dans l'autre cas hydrogène, et une partie électronique. Alors le fait qu'il y ait des pannes sur les deux types d'horloges pourrait nous indiquer qu'il pourrait y avoir un composant commun aux deux parties électroniques qui serait tombé en panne. Mais là, c'est de la pure spéculation. Donc ces horloges, elles ont été testées au sol. Elles ont été testées, comme ça a été dit, dans les satellites préliminaires Jovea et Jovea B, et aucune panne ne s'est manifestée. Donc, est-ce qu'il y a eu une modification de composants électroniques entre deux ? De mon côté, je suis assez confiant sur le fait que la panne, la source, a été ou sera très rapidement identifiée et pourra être corrigée sur les horloges qui vont être envoyées prochainement dans l'espace.
Ouais. Gaetano Miletti, vous, quand est-ce que, personnellement, vous avez eu vent des premiers dysfonctionnements sur les horloges ?
Moi, j'en ai entendu parler à la fin de l'automne dernier, donc octobre, novembre, c'était quelque chose de connu.
Et Philippe, est-ce que c'est pas un problème si le 17 novembre dernier, les satellites sont partis avec ce problème, tout simplement ?
Alors, il y a peut-être, je ne sais pas. Effectivement, le lancement a eu lieu le 17 novembre. Je ne sais pas si les opérateurs et l'Agence spatiale européenne étaient au courant à ce moment-là. S'ils l'étaient, je ne sais pas s'il y a une décision qui a été prise. Et il est certain qu'à ce moment-là, quand les satellites sont en intégration sur le lanceur, prêts à être lancés, soit on lance, soit on ne lance pas, et ça veut dire qu'on reporte pour peut-être un an ou deux. Donc,
Gaetano Miletti, ça veut dire qu'on a pu envoyer ces horloges sachant qu'il y avait déjà des dysfonctionnements avant même le décollage ou pas ?
Ça m'étonnerait beaucoup. Vous savez, c'est des développements qui prennent très longtemps. Moi-même, j'ai travaillé sur les premiers prototypes à terre, et c'est un travail qui a été terminé il y a 20 ans. Et ensuite, il y a toute une phase d'industrialisation. Les modèles de vol sont livrés, dans ce cas-ci, des années à l'avance, avant le lancement. Donc, il aurait fallu connaître le problème des mois à l'avance pour vraiment, après, intégrer l'information, etc.
Non, je vous pose la question parce qu'on
ne prend pas l'horloge depuis le laboratoire et on l'amène dans la fusée dans la semaine.
Parce que vous disiez avoir été au courant des dysfonctionnements aux alentours du mois d'octobre. Et le décollage, donc, on l'a dit, s'est effectué mi-novembre. Les ingénieurs...
La date précise, moi j'avais entendu parler de un problème sur une horloge.
Ouais, d'accord.
Je n'avais pas entendu parler de 9 horloges comme maintenant.
D'accord.
Je doute fortement qu'en novembre, il y avait déjà 9 horloges qui fonctionnaient.
Est-ce qu'une fois que les horloges sont en orbite, il y a moyen d'intervenir sur leur fonctionnement, de les remettre en route d'une certaine manière ? C'est pour vous, Gaetano Miletti.
Alors, c'est une réponse à laquelle je peut pas répondre. Il y a certaines composants qui manifestement peuvent pas être changés, hein, notamment dans la partie physique, dans la partie électronique, s'il y a des parties programmées peut-être, je ne sais pas. Là, je peux pas répondre à cette question.
Mais a priori, on est capable de faire de la réparation à distance quand même, non ? Ou c'est très compliqué ?
Dans une moindre mesure, oui. Mais là, je pensais plutôt aux horloges qui sont pas encore lancées. N'est-ce pas ? Je serais très surpris si le problème est fondamental au niveau de l'horloge qui ferait qu'on ne pourrait plus réparer les horloges qui sont déjà prêtes à être lancées. C'est dans ce sens-là que je disais. Ouais. Parce qu'un tel problème aurait été détecté bien plus tôt dans le développement.
Pour la réparation à distance, il n'y a pas de secret. Soit on a des systèmes redondants à bord, c'est-à-dire par exemple des circuits électriques qui sont doublés. Et à ce moment-là, on switch, on élimine celui qui est défectueux, on passe sur l'autre. Mais évidemment, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas envoyer d'astronaute. Donc, en fonction du problème, on réparera ou pas. Par contre, il va y avoir d'autres lancements. Et il y en a un qui est déjà programmé avant la fin de 2017. 4 satellites d'un coup à bord d'une fusée Ariane 5. Et là, il faut voir ce que l'ESA va décider. Est-ce qu'elle va décider de lancer quand même, sachant que, bon, c'est 9 pannes, mais il y a 72 horloges, 4 par satellite. Donc, tant qu'il y a une horloge qui fonctionne sur un satellite, il peut marcher. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter? Est-ce que ça, c'est une décision qui appartient à l'ESA, qui la prendra prochainement? Et puis, en tout cas, il y aura sans doute, il y a 8 satellites qui sont encore en cours de construction ou à construire et sur lesquels il va falloir sans doute modifier quelque chose ou en tout cas faire d'autres tests.
Ouais. Gaetano Miletti, juste dernière question. Les Suisses, dont vous êtes, sont des champions toutes catégories pour les horloges, même atomiques, alors, ce que je vois.
Alors, il est vrai que les horloges atomiques pour Galileo et d'autres horloges atomiques spatiales ont été développées complètement ou partiellement par des équipes suisses.
Oui, tout à fait. Donc c'est amusant de le constater, en tout cas. Merci beaucoup pour vos précisions, Gaetano Miletti. Philippe Inarajos, à bientôt avec Ciel Espace. Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un test sanguin qui pourrait prédire la mortalité du virus Ebola chez les patients. C'est ce qu'a annoncé ce matin une équipe de scientifiques des universités de Liverpool et de Boston. Après avoir analysé des échantillons sanguins des victimes, les chercheurs ont identifié des gènes dont l'expression prédit les risques de mourir d'un patient lorsque son corps contient une quantité moyenne de virus, une grande quantité étant généralement fatale. Cette découverte devrait permettre un étalonnage rapide de l'infection en cas de prochaine épidémie. Les primates en danger, une équipe de 31 primatologues du monde entier a établi un bilan des populations des primates non humains et leurs conclusions sont mauvaises. Selon eux, sur les 504 espèces de nos plus proches cousins, 75% des populations sont en déclin, 55% menacées d'extinction. Bien évidemment, nous sommes les principaux responsables de cette situation. Les trois causes de cet état de fait étant la destruction de leur habitat par les activités humaines, le braconnage et la transmission de maladies de l'homme vers les anthropoïdes. Et puis, connaissez-vous le néopalpa Donald Trumpy? Eh bien, au début du mois, on vous rapportait qu'une dizaine d'espèces avaient été nommées d'après Barack Obama. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de Donald Trump. En effet, un biologiste canadien a découvert une espèce inconnue de papillon dans le désert californien et l'a dénommée d'après le président des États-Unis. Ce chercheur explique qu'il a choisi ce nom car la tête de l'insecte est juchée d'une touffe blanche, rappelant la coupe de cheveux du républicain, mais surtout pour attirer l'attention du public sur le besoin de protéger les habitats des espèces vivantes aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les drôles de photos et la coiffure de Néopalpa Donald Trumpy sur notre page Facebook. Allez, les limites de l'être humain, c'est le dossier dans un instant.
Say no, no, no.
No, no, no.
For the green, giving up on your dream. dream, say no, no, no.
No, no, no.
You get paid, but your soul's a slave, say no, no, no.
No, no, no.
Baby, I got too much drive to put a seatbelt on my mind.
Vous savez que vous êtes la première à franchir la limite des 120 ans. La première dans l'histoire de l'humanité.
J'en suis fière, très fière.
Si vous deviez refaire votre vie, vous la referiez comment ?
Pareil, pareil. Vive tellement une belle vie, vive une vie merveilleuse.
Voilà, Jeanne Calment, en 1995, voilà, qui a donc franchi la barre des 122 ans, record inégalé pour l'instant. L'être humain a-t-il atteint ses limites? Dossier de l'émission, question qui a fait l'objet d'un cahier Sciences et Médecine du Monde le 4 janvier dernier. Et pour en parler, illustrer les différents domaines de la science où cette question peut être développée, comme la longévité, les performances physiques et intellectuelles, Jean-Marie Robin est avec nous en duplex de Montpellier. Vous êtes démographe et directeur de recherche à l'INSERM. En studio avec moi, Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à Paris Descartes et directeur de l'IRMES. C'est l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport. Et puis Olivier Houdet, professeur de psychologie également à Paris Descartes. Vous dirigez le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant du CNRS. Vous avez publié entre autres « Apprendre à résister aux pommiers » et « Une histoire de la psychologie chez Que sais-je ». Et les questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Alors cette question des limites humaines, elle est d'abord assez fascinante, mais on voit aussi qu'elle divise beaucoup les chercheurs. La durée de vie humaine fait partie des questions qui ne met pas tout le monde d'accord, visiblement. Est-ce que l'espérance de vie est en train de plafonner? Comment d'abord on peut répondre scientifiquement à cette question, Jean-Philippe Toussaint? Comment est-ce qu'on étudie ça? Quels sont les paramètres qui sont pris en compte?
Alors tout d'abord, il y a l'observation de la durée de vie de nos compatriotes, de l'ensemble des maxima établis année après année. Il existe des grandes cohortes qui sont également suivies avec toute la difficulté d'assurer en particulier les dates de naissance, donc la réalité, ce qui avait été fait d'ailleurs par Jean-Marie Robin sur Jeanne Calment pour certifier et retrouver dans les coordonnées historiques l'exactitude de ces données, ce qu'on a beaucoup plus de mal effectivement dans les pays qui ont moins de facilité d'archivage. Une fois qu'on a tout ça, que l'on suit les cohortes de centenaires, ce que font la plupart des pays, ce que prévoit également l'OMS pour voir comment les structures des sociétés vont évoluer et quels sont les risques associés avec les différentes classes d'âge, on regarde également ce que sont les grands facteurs de mortalité dans ces domaines et au fur et à mesure, on établit les conséquences possibles ainsi que les projections qui sont faites sur les décennies à venir.
Jean-Marie Robin, Jeanne Calment, c'est un vrai cas pour la science
Oui, c'est un cas très intéressant, mais à l'évidence, c'est ce qu'on appelle un outlier, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de toute distribution de la durée de vie humaine. Donc, c'est intéressant d'étudier le cas de Jeanne Calment, mais c'est aussi ce qu'on appelle un cas privé, c'est-à-dire que l'étude de Jeanne Calment ne nous renseigne pas sur la destinée commune.
Jean-François Toussaint, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter là-dessus?
Oui, c'est justement cette notion d'outlier qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité d'étudier ces outliers pour comprendre comment ils se distribuent et comment cette distribution répond, de fait, non pas à un accident statistique auquel on ne comprendrait rien, mais s'inscrit dans la distribution des outliers, de la même façon que la totalité des records du monde, qui se calcule par dizaines de milliers maintenant, non seulement sur les capacités physiologiques, mais également sur la taille, mais également sur les grands critères dont on voit qu'actuellement ils sont en train d'aboutir à des plafonds, à des plateaux de saturation.
Jean-Marie Robin, qu'est-ce qui permet justement, quels sont les éléments aujourd'hui qui étayent bien l'accroissement de la longévité dans les pays développés?
Bien, d'abord, c'est cette mesure, et c'est vrai que, par exemple, en Suède, on a commencé à enregistrer la mortalité et les naissances au milieu du XVIIIe siècle. Mmh. Donc, depuis 1750, on a des calculs annuels d'espérance de vie. Donc, effectivement, on a maintenant de très longues séries statistiques qui nous permettent de voir qu'il y a eu des périodes de stagnation, il y a eu des périodes d'augmentation de l'espérance de vie, et que donc rien n'est linéaire en fait. En tout cas sur de longues distances, par exemple, après une forte croissance de l'espérance de vie au lendemain de la guerre jusqu'on va dire au milieu des années 60, on pensait qu'on était arrivé, avec des valeurs de l'ordre de 70 ans, qu'on était déjà arrivé aux limites de la vie, ouais. Et on pensait que la croissance de l'espérance de vie allait s'arrêter. Quelques années après, on a vu que ben, pas du tout, on avait changé de rythme de croissance, que désormais l'espérance de vie n'augmentait plus que de 3 mois par an au lieu des 5 ans précédemment, mais que toute une série de facteurs, comme ce qu'on a appelé la révolution cardiovasculaire, avait pris le relais, finalement, des mécanismes précédents qui expliquaient la chute de la mortalité et la croissance de l'espérance de vie. On est allé de surprise en surprise. Ouais.
Alors justement, il y a une étude intéressante, c'est celle de Nature en octobre dernier, puisque des biologistes y affirment que l'âge maximal au décès plafonne depuis 1995 autour de 115 ans et que la probabilité de dépasser 125 ans est aujourd'hui extrêmement faible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conclusions, Jean-Marie Robine ?
Non, je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. Et effectivement, bon, j'ai eu un rôle dans la publication de ce papier.
Oui.
Au début, les auteurs utilisaient des données dont la qualité pouvait être contestée et n'avaient pas forcément de bons indicateurs sur justement les durées de vie extrêmes.
Oui.
Donc tout cela a été corrigé. Mais pour autant, je ne participe pas, je ne partage pas leurs conclusions.
Mais c'est embêtant quand on signe un article quand même, non ?
Je ne le signe pas. Hein. J'étais dans le processus éditorial. Je ne suis pas signataire de cet article. Pour autant, je ne partage pas leurs conclusions,
oui.
Parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas de méthode connue qui nous permette effectivement d'affirmer avec certitude s'il y a des limites à la durée de vie humaine, quel type de limite il y a, et vers quel niveau elle se situe, et dans combien de temps, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 3 siècles, on les rencontrera. Je crois que c'est pour ça que c'est un sujet qui passionne, mais je crois qu'aujourd'hui, personne ne sait trop comment répondre à la question, et que si on savait répondre à la question, vraiment des articles sur ce sujet seraient publiés depuis longtemps.
Alors justement, Jean-François Toussaint, vous êtes de quel côté ? Alors vous doutez qu'on puisse aller au-delà
de 25 ans ? C'est étonnant de la part d'un reviewer d'une publication aussi prestigieuse que celle qui est passée dans Nature. On a 3 possibilités à la fin d'une révision d'un article, c'est de dire j'accepte avec des petites modifications, j'accepte avec des grandes modifications ce qui a été fait dans ce cadre-là, ou je refuse. Si on n'est pas dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il y a un des éléments qui est finalement démontré par l'équipe et qui apporte de façon très évidente ce qui a été l'adaptation aux considérations les principales que les reviewers ont demandé.
Donc Jean-François Toussaint, ça a été fait. Vous, votre point de vue, c'est de dire quoi ? Que vous êtes plutôt d'accord avec la publication pour dire qu'il y a vraiment des limites
On l'avait publié dans un certain nombre de domaines et 2 ans avant, on avait montré que c'est maxima dans certaines populations très privilégiées, en particulier les sportifs de haut niveau et également chez les super centenaire avec une méthodologie très comparable a aboutissé aux mêmes conclusions. Donc on voit que ça va tout à fait dans le même sens et c'est ensuite sur tous les autres paramètres que viennent des plafonds successifs qui viennent progressivement décrire ce paysage d'une saturation en état de se constituer.
Donc sur la longévité, nous sommes proches d'une limite pour vous, très clairement ?
Absolument, et ceci à peu près dans les mêmes temps, dans les mêmes périodes que celles que l'on constate sur les autres, c'est-à-dire depuis une génération. C'est le cas également pour la taille.
Ouais. Jean-Marie Robine ?
Non, je ne suis absolument pas d'accord avec l'hypothèse là qui a été formulée. Parce que d'une part, je pense que la longévité ne peut pas se comparer avec un organe ou ne peut pas se comparer avec une dimension comme la taille. Et la longévité mobilise d'abord tous les composants humains, donc tous les organes et toutes les dimensions, comme effectivement la taille, le poids, le cerveau, tout ce qu'on veut, le fonctionnement de ces organes. Et puis surtout, tout cela s'exprime au cours du temps. Donc on est dans une autre autre dimension. En fait, c'est combien de temps tout ça peut durer. On n'est pas en train de dire quelle peut être la taille du cerveau de demain ou quelle peut être la taille de nos pieds. Non, combien de temps peut durer cet assemblage biologique. Et donc là, on change complètement de dimension. Il y a une nouvelle dimension qui est liée au temps, qu'on pourrait appeler l'inertie. En fait, il y a trois inerties. Il y a l'inertie que prend le temps de la diffusion du savoir et des techniques. Il y a l'inertie que prend la transmission biologique. Mmh. Et en fait, par exemple, l'état de santé de nos grands-mères maternelles sont très importantes pour notre longévité actuelle. Et puis, il y a l'inertie démographique qui est que aujourd'hui, de toute façon, pour être un recordman du monde de la longévité, il faut au moins avoir vécu 115 ans. Ça veut dire qu'on a traversé 115 siècles. Et que donc, on est né il y a très, très, très longtemps et qu'on a rencontré des conditions de vie,
expositions... 115 siècles, je ne comprends pas le parallèle.
Pardon, 115 ans, pas 115 siècles.
Oui, d'accord.
Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Ça veut dire que, donc, on est né il y a très longtemps, si on est né il y a 115 ans et que on a traversé des expériences très, très différentes des expériences actuelles, on a été confronté à des expositions très différentes et qu'en fait, on ne peut absolument pas, de l'observation actuelle, imaginer que tout peut s'arrêter d'un seul coup.
Bon, en tout cas, on voit à quel point le sujet est clivant quand même, hein, parce que tous les scientifiques sont pas d'accord et Jean-François Toussaint, visiblement, vous partagez pas du tout le point de vue de
oui,
Jean-Marie Robine.
Il faut bien considérer l'ensemble des déterminants, y compris ces environnements successifs au cours des siècles. Et c'est pour ça que les grandes séries, telles que le mentionnait sur les séries suédoises, comme d'autres au Japon, comme d'autres dans les pays développés, permettent justement de mieux saisir ces environnements et les déterminants sur les facteurs qui vont, in fine, jouer sur l'espérance de vie.
Bon, Olivier Audy, il y aura moins de clivage avec vous parce que vous êtes tout seul à vous exprimer sur cette question des limites intellectuelles avec nous dans quelques instants. Les messages des auditeurs nous rejoignent et arrivent sur le site de la tête au carré franceinter.fr.
On s'entraîne.
Jean-Paul Romaine avec la voix de Jean-Louis Murat.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
L'être humain a-t-il atteint ses limites avec le démographe Jean-Marie Robin, le physiologiste Jean-François Toussaint, le psychologue Olivier Houdet et vos messages sur franceinter.fr. Jean-Marie nous envoie d'ailleurs ce petit mot. Il nous dit « Faut pas perdre de vue que les centenaires actuels sont nés en 1917 et qu'une sélection sévère a eu lieu avec les deux guerres traversées. Une certaine réserve peut être faite également sur les nourrissons actuels qui sont en contact avec les perturbateurs divers et variés avant même d'être nés. Jean-François Toussaint, il faut en tenir compte si on veut faire même de la prospective là sur les futures générations ?
Oui, bien sûr, il faut tenir compte de ces variations de l'environnement, mais il faut tenir compte aussi de ce qui se passe dans la totalité des fonctions de croissance qui ont été celles qu'on observe au cours du XXe siècle et même avant, 19e et 20e siècle, sur l'ensemble de ces paramètres. Et une fois de plus, quand on voit de façon très précise dans certains contextes, avec ces longues séries temporelles, se développer des fonctions de croissance qui sont toutes marquées par les mêmes événements, en particulier les deux guerres mondiales, on voit qu'on peut mettre au point un certain nombre d'outils d'études, épidémiologiques notamment, et que ceci s'applique à la fois sur les performances individuelles, mais aussi sur les performances collectives, en particulier celui des limites des sociétés humaines cette fois-ci.
Et alors ça veut dire quoi exactement ?
Eh bien, ça veut dire que sur la partie économique, sur la partie de déploiement des capacités, on voit là encore un certain nombre de ces limites qui viennent autour d'une des questions fondamentales qui est sur quoi repose ce développement. Et il repose entre autres sur l'utilisation de l'énergie. Et ce déploiement de la complexité des systèmes humains par le biais de l'énergie est peut-être aussi une des clés de compréhension de ce qui va nous arriver dans le cours du XXIe siècle.
Alors Jean-Marie Robin, effectivement, hein, ces centenaires nés en 1917 et les bébés qui naissent aujourd'hui, évidemment, les contextes ne sont absolument pas les mêmes.
Non, les contextes sont pas du tout les mêmes et personne n'avait entendu parler de facteurs de risque avant les années 70, quand on était vraiment un grand spécialiste et plutôt vivant aux États-Unis. Donc la plupart d'entre nous avons découvert l'existence de facteurs de risque dans les années 80 au mieux. Et donc c'est vrai que la plupart des nonagénaires et des centenaires actuels n'ont jamais fait attention pour se protéger contre les radiations du soleil, n'ont jamais fait attention pour se protéger de la fumée et de tout un certain nombre de polluants. C'est vrai que de nouveaux polluants sont introduits ont été introduits au cours des dernières années, mais c'est vrai que on va dire depuis la révolution industrielle, on n'a pas cessé d'introduire de nouveaux produits dont beaucoup effectivement ont été des polluants, puis on n'a pas cessé non plus d'en retirer un certain nombre, et il faut bien effectivement en permanence faire la balance de tout cela. Et c'est vrai que lorsqu'on a un regard sur la longue période, sur un siècle ou sur deux siècles, quand même globalement on a très très largement dépollué, et d'une année sur l'autre les progrès l'emportent sur ce qui est néfaste. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que je ne dis pas que toute innovation est effectivement quelque chose qui réduit systématiquement les facteurs de risque, mais on a quand même deux indicateurs qui portent sur les plus fragiles, qui sont les bébés, avec la mortalité infantile, donc il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé au moment de la naissance, et puis on a un autre indicateur qui est la mortalité, par exemple chez les nonagénaires ou les centenaires, qui sont aussi des individus extrêmement fragiles, et on voit bien comment il suffit d'une canicule ou d'une épidémie de grippe pour vraiment les faire tomber comme des mouches. Et donc
ça,
si vraiment on était dans un environnement de plus en plus délétère, parce que les nouveaux facteurs qu'on introduit étaient beaucoup plus délétères qu'autrefois, on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas une remontée de la mortalité infantile et une remontée de la mortalité des nonagénaires et des centenaires.
Effectivement, ce sont les chiffres qui montrent qu'entre 2011 et 2016, cette mortalité infantile qui vient d'être publiée hier par l'INSEE est remontée de 3,5 à 3,8, donc 15% d'augmentation. Et c'est aussi et surtout l'augmentation des mortalités, tant aux États-Unis qu'en France.
Alors c'est ça,
pour d'autres raisons. On voit qu'il y a eu 45 000 décès supplémentaires en 2015, qui a été l'occasion d'un recul de l'espérance de vie de 5 mois.
Et ça, c'est quand même une grande première depuis longtemps.
Et donc, depuis 69.
Comme en France.
Et aux États-Unis aussi, pour d'autres raisons d'ailleurs, dont certaines peuvent être liées à une interprétation des conditions économiques dans les populations les plus défavorisées, ce que Jean-Marie Robin qualifiait de vulnérables. C'est effectivement dans ces un milieu très susceptible, très vulnérable, qu'on voit les impacts majeurs, tant des questions économiques qu'aussi des questions climatiques ou environnementales.
En tout cas, il y a un centenaire qui pète la forme. Il s'appelle Robert Marchand, il a même 105 ans. Il a parcouru le 4 janvier 22,5 km en une heure au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Record, compte tenu de son âge, qui d'ailleurs doit être encore homologué. Écoutons justement Robert Marchand à l'arrivée.
Le record de l'heure consistait à faire quoi en vélo ?
Le record de l'heure, c'est un truc, un des plus difficiles qui existe sur piste. Parce que là vous avez un pignon fixe, vous ne pouvez pas vous reposer. Pendant une heure, il faut pédaler le plus vite possible. Ouais. Et ça, c'est très, très, très difficile. Voilà.
D'accord. Et vous l'avez battu.
Combien de kilomètres ?
Combien j'ai fait ?
Ouais.
Voilà. Mon ancien record était de 24,1751. Là, je crois qu'il est à 26,950 maintenant.
Pulvérisé.
Est-ce que vous êtes fatigué ?
Est-ce que vous êtes fatigué ? Vous êtes fatigué, Robert ?
Non, je ne suis pas fatigué du tout. Non. Ça a même été plus facile que je croyais.
Voilà, Robert Marchand. Jean-François Toussaint, votre commentaire sur ce qu'on
vient d'entendre. Oui, cette interview date du précédent record. Il était effectivement... il est à 22 km là, cette fois-ci. 22 km 457.
Bon, apparemment, c'était vraiment issu des derniers chiffres.
On voit bien que sur cet aspect-là, il est un des plus phénoménaux représentants de notre espèce. Parce qu'il a raison, c'est le plus difficile. Et en même temps, avec l'âge, progressivement, on voit sa performance reculer naturellement, puisque sa capacité musculaire, qui a d'ailleurs été étudiée par ailleurs, montre bien qu'on perd petit à petit avec le temps ses effets inexorables.
Sauf que lui a l'air d'avoir un capital au départ
un peu supérieur,
c'est ça.
Très largement. Et il a bénéficié de toutes les conditions dont parlait Jean-Marie.
Donc lui aussi, c'est un véritable objet d'étude là, pour les scientifiques.
Tout à fait.
Il s'y prête de bonne grâce.
Mais on peut comprendre en le réunissant lui avec Bradley Wiggins et avec tous les autres détenteurs des records à tous les âges, on peut comprendre ce que sont les limites humaines parce qu'au-delà d'eux, il n'y a personne.
Alors il y a une théorie justement dans les records sportifs qui s'appelle la théorie du plafonnement, Jean-François Toussaint. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie également ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, au fond, des performances sportives ?
Alors, très simplement, et j'étais amené à les détailler dans les émissions précédentes avec vous, fort heureusement, on a vu quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la théorie, qui est simplement le constat de la réalité des faits qui montre que l'on s'adresse au record du monde, que l'on s'adresse aux 3 meilleurs, aux 5, aux 10, aux 50 meilleurs, aux 100 meilleurs, aux 1000 meilleurs mondiaux, tous ces représentants de la physiologie humaine nous amènent au même constat. Ce plafond, cette stagnation intervient depuis maintenant 20 à 30 ans dans l'ensemble des disciplines de la physiologie humaine.
Ça veut dire qu'on va s'ennuyer fortement là, maintenant.
C'est un des problèmes
et
c'est pour ça qu'on change les programmes. C'est parce que ça devient parfois un peu barbant de voir quelqu'un qui force toute sa vie de battre un record qui n'est plus accessible. Je pense par exemple à celui du 100 mètres féminin sur lequel le dopage des années 80 ne permet plus d'envisager, à moins de se doper dans les mêmes conditions, de battre ce record.
Allez, dans un instant, nous allons parler des limites de l'intelligence avec vous, Olivier Houdet, pour voir justement ce que la science nous en dit.
Si tu veux savoir comment je me sens, abonné absent, si tu veux savoir comment ça va seul, comment ça va sans. Si tu veux savoir comment ça aboie, comment y a personne. Si tu veux savoir, j'ai fait ça pour rien. Je fais ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Si tu veux savoir, comment t'es plus là, combien je te dois. Si tu veux savoir, j'ai la panoplie de mon ennemi. J'ai fait ça pour rien, je fais ça très bien. J'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée.
troisième enfant. Si tu veux savoir, j'ai tout essayé, je pars sans payer. Si tu veux savoir.
Si tu veux savoir, frère animal dans notre tête au carré, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Alors dans ce dossier consacré aux limites justement de l'être humain, la partie intellectuelle nous intéresse, c'est pour cette raison que vous êtes avec nous, Olivier Houdet. Alors qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui justement de ces limites? Je vous propose d'écouter ce petit reportage justement qui a été diffusé sur France 2 le 5 janvier sur la baisse du QI.
Dans plusieurs pays occidentaux, le QI, le quotient intellectuel, eh bien, tendrait à diminuer. On admet qu'avec à peu près 100 points de QI, on a donc un quotient intellectuel moyen, une intelligence moyenne. Eh bien, une étude montre notamment qu'en 10 ans, le QI des Français a perdu presque 4 points. Ce n'est pas très flatteur pour nous, avec notamment nos smartphones. Nous ne calculons plus, nous ne mémorisons plus. Bref, nous n'entraînons plus notre cerveau. En tout cas, ça fait partie des hypothèses des chercheurs. Il y a aussi les produits chimiques qui pourraient avoir un impact sur le développement du cerveau. Et puis, certains scientifiques pointent quand même également du doigt les carences supposées de certains systèmes éducatifs. Tout cela, les chercheurs donc en débattent. En tout cas, il est fort probable que l'homme, décidé par Léonard de Vinci il y a plus de 500 ans, ait été finalement plus intelligent que nous et que nous ne soyons pas vraiment sur la bonne pente.
Olivier Houdet, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il vient d'entendre, visiblement. Alors, sur la baisse de QI des Français, 4 points, d'abord, est-ce que tout ça est fiable, au fond?
Alors, en science, tout dépend toujours de la mesure. Mmh. Le QI, quotient intellectuel, c'est un âge mental rapporté à un âge chronologique. Alors, l'âge mental est lui-même mesuré par un test papier-crayon, qui a été inventé il y a quasiment un siècle et qui, selon moi, n'est plus du tout adapté à l'intelligence d'aujourd'hui. Donc, tout dépend de la mesure. Il y a bien une décrue du QI comme elle est évoquée, mais dans un test qui est devenu inadapté.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme test aujourd'hui à disposition pour essayer d'avoir quand même une photographie de l'intelligence humaine?
Alors, si vous voulez, vous évoquiez le papier de Nature tout à l'heure. J'ai moi-même, en 2010, publié un article dans Nature qui disait aller au-delà du QI, tenir compte des différences intra-individuelles d'apprentissage. On a aujourd'hui des outils à la fois d'imagerie cérébrale et de chronométrie mentale face à un ordinateur qui nous permettent de voir comment un individu donné, un enfant comme un adulte, est capable assez rapidement de changer sa stratégie de raisonnement, de découvrir une solution nouvelle, d'être créatif. Et là, on est au cœur d'une intelligence plus dynamique que le seul chiffre unique d'un QI qui stigmatisait les enfants et les adultes pour toute leur vie.
Alors justement, les nouveaux outils aujourd'hui que nous utilisons au quotidien, est-ce qu'ils ont stimulé de nouvelles intelligences ou est-ce qu'elles en ont, est-ce qu'ils ont amoindri d'autres capacités?
Alors, on peut considérer qu'en effet, les nouveaux outils numériques, par exemple, ordinateurs, robots, font qu'on va déléguer aux machines certaines tâches asservissantes pour l'homme.
On voit pour la mémoire, par exemple, voilà. Le calcul mental.
C'est un autre aspect, la mémoire. La mémoire, c'est le second, c'est que la mémoire est devenue plutôt externe. Dès lors, vous comprenez qu'on a là, pour l'humanité, une fenêtre d'opportunité qui est de davantage déployer notre raisonnement, notre flexibilité cognitive. La mémoire étant externe et finalement les tâches qui nécessitaient beaucoup de temps, de concentration, de labeur plus automatique peuvent être déléguées aux machines. Donc il y a là un espace de nouveauté. Autre exemple, là dans votre studio de France Inter, on a sous les yeux les images du Vendée Globe. Les records ont été battus. Ce n'est pas les records de l'homme seul, c'est l'homme plus les bateaux dernière génération. Ces bateaux sont truffés de technologies, donc on va dire liés à l'informatique, à l'ordinateur. Ordinateur lui-même inventé par le cerveau des hommes durant la période dont on vient de dire, durant laquelle le QI aurait diminué. Ouais, donc vous voyez
ça veut dire quoi, Olivier Houdet? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment envisager l'intelligence humaine dans ce compagnonnage aussi avec la machine?
L'intelligence, depuis toujours, c'est une fonction biologique. et une fonction biologique est une fonction d'adaptation à l'environnement. Mm-hmm. Si vous voulez, la naissance de l'intelligence chez l'enfant, c'est sans doute la forme optimale de l'adaptation biologique. Donc oui, aujourd'hui, c'est avec les machines. Autre exemple, Galiléo qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est extraordinaire, Galiléo. Il y a des erreurs. On entend que quelques horloges atomiques ne marchent pas. Mais qu'a dit le spécialiste de Suisse ? C'est que très rapidement, on allait les réparer. Et donc, c'est ça que j'appelle la capacité intra-individuelle à changer, à découvrir une solution. Ouais. Donc, on a là une interaction homme-machine qui amène à ne pas du tout considérer une décroissance de l'intelligence, mais des modes d'emploi nouveaux de l'intelligence que les sciences cognitives et du cerveau, dont en effet mon laboratoire ou d'autres, celui de Stanislas Dehaene en France, analysent aujourd'hui de façon beaucoup plus fine en termes de processus.
En vous écoutant, Olivier Houdet, on se dit même que cette question n'a aucun sens, au fond. Se demander si nos capacités intellectuelles sont plus ou moins importantes qu'avant, vu que le contexte a complètement changé, dans ce contexte-là, il est très compliqué de comparer des choses qui ne sont pas comparables.
Elle aurait du sens rapporté au contexte.
C'est ça.
Et surtout en utilisant le bon test de mesure. Ouais. Et vous voyez comment les médias ou ce que l'on rapporte sur Internet pourraient dire « Ah oui, le QI a baissé ». Et personne ne s'interroge sur la mesure du QI. La mesure du QI date d'il y a un siècle. Quel domaine de notre vie dans la société mesurerait-on aujourd'hui avec un baromètre qui serait vieux d'un siècle ?
Mais vous savez, c'est toujours des histoires du titrail.
C'est pourquoi la psychologie expérimentale et scientifique et les sciences cognitives sont utiles pour rappeler ça. Dans nos laboratoires, aujourd'hui, on utilise de nouvelles mesures de l'intelligence corrélées à l'activité du cerveau et qui font dire que cet outil est tout à fait dépassé. Donc certes, le QI diminue, mais avec une mesure qui n'est plus pertinente.
C'est ça. Et avec des intelligences dont on parle au pluriel, parce qu'on se rend bien compte que...
En effet, il y a diverses formes d'intelligence, elles sont multiples. Et il y a dans notre cerveau, à l'avant, le cortex préfrontal qui permet précisément la flexibilité d'une intelligence à l'autre. Et on parle davantage aujourd'hui, moi j'utilise le mot inhibition au sens positif, c'est-à-dire que l'essentiel de l'intelligence, c'est être capable de raisonner contre soi, d'inhiber ses propres automatismes, individuellement ou collectivement, dans une entreprise, dans une société. Et c'est sans doute là que l'on peut progresser. Finalement, puisque les machines font pour nous les tâches asservissantes, utilisons bien notre cerveau dans le temps libre qui lui reste pour inhiber nos automatismes, être flexible, créatif et apprendre ou réapprendre à raisonner.
Et plastique, comme l'est notre cerveau.
Et d'ailleurs. Plastique, en effet.
Jean-François Toussaint ?
Oui, effectivement, c'est une question qui est parfaitement pertinente. On voit bien, et Olivier a raison de le dire, que l'outil est totalement inadapté à la mesure actuelle des performances. Mmh. C'est beaucoup plus complexe que de mesurer une vitesse ou une distance sur un saut donné. Mais derrière, ce qu'on voit aussi apparaître derrière les effets de la technologie sur la performance, pour le Vendée Globe, c'est aussi les effets secondaires de la technologie. Et si elle devient pertinente, cette question sur l'intelligence humaine, son adaptation en tant qu'espèce et en tant qu'individu, c'est de savoir s'il est capable de prévenir les effets de très long terme de sa technologie. Je m'explique, on vient de dire 60% des primates non humains sont en train de disparaître. Quels sont leurs rôles dans notre équilibre sur Terre ? Quel est le rôle de l'effondrement de la biodiversité ? Quel est le rôle et le risque du changement climatique sur le très long terme sur notre espèce ? Est-ce que notre intelligence collective est capable de s'attaquer à ce problème-là ? Là encore, un des éléments sur lesquels...
J'attends la réponse d'Olivier Houdet
à suivre. Tout à fait, ce sont des défis. Je dirais que ce sont des défis pour le cerveau humain et pour les cerveaux du monde. Prenons l'exemple que vous avez évoqué du climat. On peut dire, et Hubert Reeves dit cela très bien, finalement c'est le cerveau des hommes qui a créé ce problème en créant les technologies, en les utilisant pour l'exploitation des ressources de façon non anticipée, non contrôlée, non simulée. Mais c'est aussi le cerveau de l'homme qui organise les COP 21, 22 et les suivantes. Donc là où croit le péril dans le cerveau des hommes, croit aussi ce qui sauve. Et cette conscience réflexive que peut avoir le cerveau, on l'a pour le climat, on l'a pour la pollution, c'est là-dessus qu'il faut parier. Et on le constate, la nouvelle génération, les ados et les jeunes adultes sont extrêmement conscients de tout cela. Et donc, il y a là, je dirais, un processus de conscience qui fait que le cerveau qui finalement a conduit à ces dérives est le seul organe, et les cerveaux collectivement, pour corriger les erreurs, comme pour Galiléo. Ouais,
c'est une belle vision de l'intelligence positive, on pourrait dire, Olivier Houdet, les aspects...
Sans être utopiste, ni imaginer qu'il y a des contraintes et que les contextes sont difficiles, mais le cerveau humain est l'outil qui, tout en étant fragile, parce que si l'homme a développé son cerveau de telle sorte et a créé l'intelligence en quelque sorte, c'est en raison de notre fragilité physique dans un environnement hostile. Mais c'est ce cerveau humain qui peut avec des technologies de plus en plus performantes, comme l'ordinateur, comme Galiléo, comme les super bateaux du Vendée Globe, qui peut, dans cette combinaison nouvelle, franchir des étapes et relever, en quelque sorte, les défis qu'évoquait mon collègue Toussaint.
Jean-François Alors, Toussaint, vous avez 20 secondes. 15 secondes.
Ce que dit Berrives aussi, c'est dans cette moins belle histoire de l'homme, la façon dont, effectivement, il se procure lui-même ses risques principaux, en voilà un des effets secondaires, l'immobilisation de l'ensemble des activités humaines par le biais des technologies de la communication.
Voilà. Merci beaucoup à tous. L'être humain a-t-il atteint ses limites? Je vous renvoie donc sur ce dossier du Monde, du cahier Sciences et Médecine. Merci Jean-Marie Robine, vous étiez en duplex des studios de France Bleu à Montpellier.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et Dominique et sa piqûre, comme tous les jeudis. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et vos amis du Forum Indep qui ont tapé fort pour la rentrée. Hein.
Eh oui Mathieu, je rappelle que cette association milite sans relâche depuis plus de 10 ans pour que l'industrie pharmaceutique n'interfère ni avec la formation des médecins, ni avec l'information du public. Or, les maigres avancées qui ont suivi l'affaire du Mediator restent insuffisantes, comme le rappelle régulièrement Irène Frachon. Il faut continuer à secouer le cocotier.
Alors à quel cocotier le Forum Indep s'est-il attaqué cette fois-ci?
Eh bien aux facultés de médecine. En vérifiant l'application d'un principe éprouvé, l'indépendance professionnelle doit s'apprendre tôt et être enseignée par des maîtres qui y souscrivent eux-mêmes. L'équipe de Paul Schaeffer vient de publier son étude dans la revue PLOS ONE. Il s'agit d'un véritable travail de recherche publié comme tel, donc dans une revue internationale. Alors il faut dire que les Américains nous ont précédés depuis longtemps dans cette voie. Leurs facultés de médecine ont édicté des règles strictes pour encadrer les relations entre l'industrie du médicament et les enseignants ou les étudiants. Elles concernent les cadeaux individuels, le financement d'événements au sein du campus et bien sûr les conflits d'intérêts potentiels des enseignants qui sont signalés au début de chaque cours. Cette vigilance a permis d'améliorer la qualité des prescriptions des futurs médecins qui sont ainsi protégés de l'influence des firmes pendant leur formation. Et donc, le groupe de travail du Forum Indep a passé au crible les 37 facultés de médecine française pour identifier leur politique de protection de l'indépendance de l'enseignement. Et quand aucune information n'était disponible, eh bien les doyens ont été interrogés par courrier et relancés en l'absence de réponse.
Alors, on a hâte de savoir ce que ça a donné, Dominique.
Eh bien, apparemment, nous avons beaucoup de retard les affaires récentes, puisque la faculté de médecine la mieux classée, qui est Lyon-Est, obtient un score de 5 sur un maximum de 26.
Ah oh oui, c'est pas beaucoup. Hein.
Non. Alors, le deuxième, c'est Angers avec 4, il y a 7 autres facultés qui ont 1 et les 28 autres ont 0.
Aïe, mais quelles ont été les réactions?
Alors bon, bien sûr, il y a toujours des doyens pour bafouiller que oui, on y travaille, bien sûr, ou bien je ne me souvenais pas avoir reçu les courriers, c'est bizarre, je vais chercher. Mais je dois reconnaître que la conférence des doyens s'est montrée quand même réactive en publiant un communiqué très ferme sur son intention de remédier à ses carences. Mais les doyens pointent du doigt une difficulté importante. C'est à l'hôpital que les étudiants sont parfois obligés de participer à des repas ou des formations organisées par des industriels avec l'aval des chefs de service. Mais qu'à cela ne tienne, le Forum Indep a justement prévu une étude identique sur les hôpitaux universitaires. Les Américains ont mis 10 ans pour gérer le problème. Nous ne faisons que commencer. L'essentiel, c'est de tenir le cap.
Un sujet qui a intéressé nos invités, professeurs à Paris Descartes, quand même.
Absolument, on fait partie des 9 facultés qui ont répondu.
Et vous avez combien de points?
1 sur 26, c'est donc le début du cheminement.
Il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Villard.
Affaire sensible avec vous dans un instant, rapidement.
Préparez votre chéquier, on va faire l'ISF.
Ah ben super.
Voilà, avec comme invité l'économiste Liemang Nok, auteur du livre « Il faut faire payer les riches et vive l'impôt ». Voilà, tout est dit.
À tout à l'heure, merci.